Je vais vous présenter Olivier Miglior. Alors, Olivier est docteur en musicologie.
Cher docteur.
Il affronte, entre guillemets, il affronte pas, mais il ne cultive pas le même public parce que lui, il enseigne en réseau d'éducation prioritaire, donc il a des collégiens. Par contre, je pense qu'il peut leur prêcher la bonne parole puisque sa thèse a porté sur la prosodie dans le hip-hop, le rap et le punk. Et c'est pas la première fois qu'il intervient, je vous propose de l'écouter. N'ayez pas peur des mots qui vous semblent compliqués parce que moi, il m'avait scotché lors de sa première présentation. Je dis prosodie sans déconner, qu'est-ce qu'il va me raconter lui. Et des trucs qui vous, ouais, il vous fait paraître un peu plus intelligent parce qu'il arrive à simplifier quand même les propos et puis à faire en sorte que finalement on a l'impression qu'on comprend ce qu'il raconte. Enfin, pas ce que lui raconte, mais que ce qui a l'air compliqué, finalement on arrive à le piger.
Non, je ne soigne personne, désolé. Ne tombez pas malade, ne faites pas de crise cardiaque.
Ah, par contre, peut-être, mais moi je dis ça pour moi, pour mieux chanter, il pourrait peut-être m'en prescrire une. Ouais.
Ça éventuellement.
Mais bon, je parle pas des autres.
Merci pour cette présentation, je ne l'ai pas payé, je vous le dis juste, vraiment, merci beaucoup. Merci bien. Voilà, et il y avait quelque chose justement que je voulais dire, peut-être avant de commencer, sur cette idée de musicalement la différence entre le téléphone qu'on a entendu à la fin et le punk qu'on a tous peut-être envie d'écouter. J'avais vu avec Christophe Pirenne, c'était à Rouen pour la violence et rock, on avait vu justement, il m'avait fait étudier, il voulait qu'on se serve de logiciel pour voir si la basse et la batterie étaient parfaitement synchronisées dans un morceau rock et dans un morceau punk. Et justement, je pense que le punk cultive l'à peu près. Et c'est ce son qui va différencier complètement Téléphone d'un groupe comme Strychnine. Parce que justement, dans Téléphone, le morceau qu'on a écouté, vous mettez le métronome et vous êtes sûr de retrouver l'exactitude du métronome. Alors que dans Strychnine, et c'est ça qui rend la musique vivante et qui sent le punk, eh bien, justement, il y a cette vie, cet aléatoire qui est cultivé dans la musique punk. Voilà, ça c'est ma théorie. Maintenant, je pars sur ma communication. Alors, je vais travailler aujourd'hui, et c'est ce que je fais généralement, je travaille sur l'analyse de la voix et sur l'analyse des rapports entre la voix et la musique. C'est ce qu'on appelle la prosodie vocale et la prosodie musicale. Pas de gros mots, donc aujourd'hui je vais parler de personnages vocaux. Il va falloir que je définisse ça. Et notamment chez deux groupes bordelais de punk, à savoir donc Strychnine et Caméra Silence. Voilà, je vais essayer de comparer un petit peu ce que présentent ces deux groupes dans les années 70-80. Alors d'abord, eh bien, Strychnine et Caméra Silence, c'est deux groupes qui n'émergent pas tout à fait en même temps. 76-81, 5 ans, vous direz, c'est peu. Et pourtant, c'est ce qui va faire qu'ils vont convoquer des imaginaires complètement différents. Alors complètement, peut-être pas, il y a des liens, mais en tout cas différents. Ne serait-ce qu'au niveau des textes, du corps, hein, vestimentaire et attitude corporelle, et du visuel. Ainsi, du coup, on va avoir un Strychnine qui s'influence plus de la première vague, autrement dit, on sent l'inspiration Velvet, New York Dolls, Stooges, MC5, effectivement, ne serait-ce que dans les imaginaires qu'il convoque. Alors que chez Caméra Silence, on est plus vraiment dans des extises très politisées. On va avoir donc, bien sûr, des treillis, des grosses chaussures, une radicalité qui s'exprime, et on va le voir. Ces imaginaires, justement, je veux vous montrer qu'ils s'expriment aussi dans l'expression vocale. Voilà. Ça va prendre donc le mixage de la voix, les traits phonostylistiques et également les placements vocaux donc de la voix sur la musique. Et donc, on va dévoiler ces identités vocales à travers la notion de personnage vocal et je vais vous expliquer ça, bien sûr, je vais y revenir. Comment on va analyser ces personnages vocaux ? Eh bien, en étudiant deux morceaux phares de ces deux groupes. Alors là, j'ai demandé à Luc qu'est-ce qui lui semblait être les morceaux les plus à même d'être analysés, et il m'a donné des conseils, j'ai suivi ses conseils, puisque je ne connaissais pas les deux groupes aussi bien que lui. Donc j'ai choisi XBX et Animal de Strychnine, donc issu de Jeux Cruels en 1980 et Je Veux en 81, et Pour la Gloire et Suicide de Caméra Silence, issu de l'album Réalité, donc sorti en 84. Alors qu'est-ce que c'est un personnage vocal ? Alors, il y a un musicologue britannique que j'aime beaucoup qui s'appelle Philip Tagg et qui a justement défini ce qu'est le personnage vocal en parlant d'abord de vocal persona ou de costume vocal. Voilà. Et c'est finalement un de ses élèves qui va mieux le faire que lui, il s'appelle Vincent Bouchard et il a écrit une maîtrise sur le sujet. Et cette maîtrise de musicologie, elle dit quoi ? Elle dit un personnage vocal, c'est un rôle assumé ou joué par un chanteur et l'identité particulière de groupe auquel il va signaler son rattachement par tous les aspects de sa phonation. Autrement dit, c'est le narrateur vocal. On a le narrateur dans le roman, On a, oui, pardon. On a le narrateur dans le roman, on a le conteur dans la chanson, on a l'éthos dans l'analyse du discours. Eh bien, on a aussi, par tous les aspects de notre voix, on construit une personnalité sans même le savoir, que ce soit volontaire ou involontaire. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui chez Strychnine et Caméra Silence. On remplacera simplement phonation par expression vocale, parce que phonation, c'est que la voix. Moi, je veux aussi voir la voix avec la musique. Voilà. Et donc, avec quels outils on va le faire ? Parce que la question des outils intervient immédiatement pour moi. Je suis musicologue. En musicologie, tout ce qui n'est pas musique savante, déjà, c'est très difficile de l'aborder, c'est-à-dire musique classique. Ils ont toujours opposé la musique sérieuse à la musique populaire. Vous voyez un petit peu la dichotomie. Donc, c'est déjà très dur d'analyser les musiques populaires. Donc une fois qu'on a fait sa place et qu'on a essayé un peu de rentrer dans ces courants-là, on se rend très vite compte que la musique populaire est une tradition, est une musique de tradition phonographique, donc enregistrée. Elle n'est pas notée, donc on ne peut pas utiliser les mêmes outils que pour la musique savante. Et donc je pense que l'œuvre, moi, est dans le premier enregistrement publié. Autrement dit, quand on publie une première fois une chanson en public, on a arrêté les textes de cette manière, les paroles de cette manière, on est satisfait de ce qu'on a fait et donc on le publie, c'est l'œuvre. Voilà l'œuvre, c'est ce que je vais analyser aujourd'hui. Pour cela, il faut donc utiliser les outils informatiques de traitement du signal sonore, parce qu'en réalité, c'est le contenu acoustique des enregistrements qui nous révèle la spécificité de l'exécution de l'œuvre. Ainsi, j'utilise pour analyser la voix un logiciel qui s'appelle AudioSculpt et un autre logiciel qui s'appelle EarCamBeat. Pour la voix, donc AudioSculpt, ça me permet de visualiser les partiels vocaux. Vous voyez ici, là, les partiels vocaux, c'est en gros toutes les fréquences de la voix. Ça me permet donc de savoir où commence une syllabe, où est-ce qu'elle s'arrête. Je peux donc ajouter des marqueurs ensuite qui vont délimiter le début et la fin de chaque syllabe. Je peux dire aussi quel est le son phonétique de cette syllabe. Ici, on a « Tu es mon frère, tu es ma vie » de Strychnine EXVX. Et on peut également signaler la prosodie. Autrement dit, si une syllabe est accentuée, par exemple, « tu es mon frère, tu es ma sœur », il va faire « tu es mon frère, tu es ma sœur ». Il accentue « et »,« frère » et « vie ». Et on peut le signaler ça aussi. Et également, le rapport qu'entretiennent les syllabes avec la musique. Pour savoir où est la musique, eh bien, on va le faire avec un logiciel qui s'appelle EarCamBeat. EarCamBeat, justement, il permet d'estimer le placement des temps et des deuxièmes croches de temps et la vitesse des tempi. Alors ici, vous avez une vidéo qui vous montre les estimations EarCamBeat pour le morceau EXBX. Vous avez des petits marqueurs jaunes, c'est les estimations d'EarCamBeat. Écoutez ça. Ou XBX. Donc c'est un logiciel qui fait automatiquement ça, d'accord ? Il me repère les syllabes et il me repère le cadre métrique musical. Ça me permet donc de comparer la relation qu'entretiennent les syllabes et le cadre métrique. Donc le placement vocal, très précisément, de la voix de Kik et de Gilles Bertin. Donc ensuite, je prends ces données, je les mets dans un logiciel de traitement de données, je les regarde sur Microsoft Excel. Ici, vous avez donc les tableurs que je n'ai jamais montrés d'ailleurs avant. Ici, c'est toutes les données de tous les morceaux que je traite qui apparaissent de manière chiffrée. Alors ça vous paraît absurde, mais ça permet d'objectiver considérablement les données qu'on analyse. La différence entre quelqu'un qui dit « j'entends ça » et quelqu'un qui dit « c'est ça », c'est quand même une grosse différence pour tirer ensuite des conclusions. Autant mes interprétations sont discutables, autant la réalité acoustique de ce qui est fait l'est beaucoup moins aujourd'hui. Voilà. Donc ça, je viens de le dire. Allez, on passe aux analyses. Je vais...
Si vous le dites,
d'accord, très bien, mais tant mieux. Allez, je vais passer justement aux analyses de la voix de Kik et de la voix de Gilles Bertin. Et Kik d'abord en premier, donc. L'expression vocale de Kik, d'abord, voix de registre plutôt moyen aigu, un ténor donc, chanté, d'accord, pas hurler, chanté, avec un timbre clair et plein. Ça le différencie de beaucoup d'autres groupes de punk de cette époque. Par exemple, ça le différencie de Metal Urbain et de Caméra Silence qui ont une voix très saturée. Ensuite, ils ont donc une mise en avant assumée de la voix lead. Autre point qu'on repère, c'est de nombreux glissandos sur les dernières syllabes de phrase chez Kik. Glissando, autrement dit, il ne tient pas ses notes. C'est un anti-lyrisme notoire, bien sûr, il le fait exprès. Sur les syllabes « qué »,« la »,« doit », »,« qui est », etc., on entend très bien ces glissandos. On écoute ça. Quand on les accumule, on se rend bien compte qu'il y a un désintérêt pour le lyrisme. On ne tient pas sa voix, ses notes avec un vibrato comme dans le lead, par exemple, dans la mélodie française. Et on a également une sensation de sexualisation ambiguë de cette voix. Est-ce qu'il est en train de jouer ? Est-ce qu'il exprime un désir ? Il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette voix. Autre point qu'on entend, c'est la forte présence de la respiration chez Kik. Vous avez écouté Lâche-moi tout à l'heure, vous avez entendu la respiration dans le micro comme on l'entend énormément. Eh bien, on l'entend énormément dans EXBX aussi, ou XBX. J'ai entendu que ça rigolait de là-bas pour la prononciation. Je vous fais écouter ces passages de respiration. Et le dernier, il l'a même utilisé donc juste rythmiquement, sans rien dire. Sur EXBX, il finit en faisant comme ça, juste pile en rythme sur les temps. C'est donc utiliser le corps vocal et le mettre en avant de manière donc à volontaire. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est à moi de le dire ou d'interpréter ça. Mais en tout cas, c'est très présent. À moi ou à tout le monde. Il y a aussi un usage du falsetto qui va accumuler encore donc une impression de sexualisation ambiguë et même, je dirais, donc de travestissement de la voix. Entre homme et femme, l'idée n'est pas claire. Il faut justement créer cette ambiguïté dans la voix de Kik. Par un usage du falsetto, c'est quoi ? C'est un passage de voix de poitrine à voix de tête de manière immédiate. On va écouter quelques exemples de ces passages. Un usage donc très fréquent du falsetto, travestissement de la voix. Autre point qu'on repère chez Kik, des groupes de souffle, autrement dit, c'est des phrases qui se disent en un seul souffle dans les morceaux, de 6,5 syllabes en moyenne. Pour les études que j'ai faites précédemment, c'est très long, 6,5 syllabes en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a une volonté littéraire des phrases composées qui est évidente. Et ça va créer donc des placements des dernières syllabes de phrases très particuliers. Les dernières syllabes de phrases, en français, elles reçoivent l'accent tonique, d'accord ? Et dans la musique classique ou dans la chanson française de la première moitié du XXe siècle, on fait correspondre les accents toniques avec les temps forts de la mesure. Autrement dit, si vous dites « bonjour, je m'appelle Olivier », vous allez le caler le « vier » sur le premier temps de la mesure, de manière à ce qu'on ait une très claire compréhension de la chanson. Et là, nous allons voir que ce n'est pas le cas. Comme le disait tout à l'heure donc Philippe, justement. Alors, les barres bleues désignent les dernières syllabes qui tombent sur les temps. Les barres orange, les dernières syllabes qui tombent sur des deuxièmes croches de temps. Et les barres grises, les dernières syllabes qui tombent ailleurs, donc dans ce que j'ai nommé l'entretemps. Et on voit bien que les temps sont très peu sollicités. Hein, dans XBX, eh bien, les temps sont très peu sollicités. Et si on regarde l'autre morceau, Animal, donc, là, les temps ne sont quasiment pas, ou même carrément pas, sollicités. Il y a donc cette volonté de s'extraire de la prosodie traditionnelle, de finir ces phrases enlevées pour créer une sensation donc, de détachement de la prosodie traditionnelle. Contestation, rébellion vis-à-vis de ça. Et ça marche. Ça marche. S'il avait placé toutes ses syllabes sur les temps, ça rendrait autre chose. Autre point qu'on relève, c'est une très forte accentuation des paroles, une accentuation anormale. Autrement dit, en moyenne, plus d'une syllabe sur deux est accentuée. Un soir de plus, tu vas craquer, il accentue toutes ses syllabes. Quelqu'un aurait dit, un soir de plus, tu vas craquer, il va accentuer plutôt la dernière. Lui, il accentue beaucoup ses syllabes. À tel point que de temps en temps, il crée des substitutions consonantiques. Désolé pour les gros mots. Une substitution consonantique, c'est quand on veut dire quelque chose, mais qu'on met tellement d'intention qu'on va dire d'autres syllabes ou d'autres consonnes. Par exemple, pour « je ne veux », il va dire « je ne veux », tellement il va accentuer. On pourrait dire même une germanisation du français. Il veut dire « va jusqu », il va dire « fâche jusqu'au bout », tellement il accentue ces syllabes. Et on l'entend très bien. Je ne l'ai pas inventé, j'ai tiré trois fois « va jusque » de l'enregistrement, d'accord ? On entend « fâchusque, fâchusque, fâchusque », c'est une forte accentuation des paroles. Cet ensemble de traits, il y en a encore énormément d'autres à relever, mais je ne peux pas tous vous les montrer aujourd'hui. Selon moi, et c'est là qu'on est dans le registre de l'interprétation, crée un personnage vocal voulu androgyne et rebelle. Androgyne parce qu'il crée une ambiguïté dans le genre de la voix, de manière... peut-être volontaire ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça fait fortement écho au groupe New York Dolls et à d'autres groupes de la première vague punk. Ça correspond donc bien. Et rebelle dans le sens où il se détache de la prosodie traditionnelle et il va vraiment donc créer une prosodie qui lui est propre et qui va donner ce personnage vocal. Allez, on passe à Gilbertin chez Caméra Silence. Alors là, on a un timbre qui est complètement différent. Bien sûr, timbre rugueux, guttural, j'ai même mis bestial, parce que c'est mon impression, je le trouve très rude ce timbre. On peut en écouter quelques extraits. On est vraiment dans la saturation vocale, mais je tiens à le préciser, sans technique vocale. Autrement dit, un chanteur de métal ou de death metal, il va faire du growl ou du grunt. C'est des gens qui ont l'habitude de faire un truc très saturé qu'ils savent faire exprès. Lui, il n'est pas là-dedans. il est dans le hurlement et ça donne ça. Voilà. Comme le faisait d'ailleurs Éric Débris dans Métal Urbain. C'est le même genre de voix. Éric Débris plus aigu. Alors, point qu'on remarque chez lui, il a dans ses albums, dans l'album Réalité en tout cas, une voix qui est systématiquement mixée en retrait, au même niveau sonore que les instruments. Et on le voit très bien puisque sur les partiels, ici, on ne voit plus les partiels de la voix sur le sonagramme. En fait, la voix est confondue dans les guitares électriques, dans les guitares saturées. Et ça, selon moi, ça traduit une désacralisation volontaire de la voix lead. En gros, c'est, on est au même niveau, on se met dans les instruments, on se fond dans le mix, on hurle et on est avec les autres instruments. Autre point qui va dans ce sens, c'est l'usage très fréquent du chœur chez Gilbertin, enfin chez Caméra Silence. Cet usage très fréquent du chœur, je ne sais pas s'il est réel ou si c'est dans le mixage qu'ils ont doublé les voix et qu'ils ont décalé de quelques millimètres. En tout cas, c'est très présent. Et ça, ça crée la mise en scène d'une parole collective. Ce que l'on dit, on ne le dit plus seul. On le dit à plusieurs et donc on est dans une collectivité, dans une intention politique, je pense. On écoute ces passages de chœur, bien sûr l'intro de Pour la gloire. Alors le « hey, hey », vous l'avez entendu, on dirait qu'il y a deux voix. Est-ce que c'est dans le mixage? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce que j'entends, moi, quand j'analyse l'œuvre, j'entends plusieurs voix. Donc, il y a cette volonté-là. Autre point que l'on relève, une suraccentuation des paroles. Tout à l'heure, j'ai parlé de forte accentuation. Là, je vais parler de suraccentuation, c'est-à-dire il y en a de trop. À tel point que, par excès de forçage vocal, on va avoir des passages faux, de justesse approximative. Et ça crée une brutalité évidente. Je vous fais écouter ces passages, vous allez comprendre pourquoi. Regarde là, on est vraiment dans quelque chose qui est faux et du coup qui est volontairement très accentué. Ça crée une brutalité dans l'expression qui est transmise directement. Autre point aussi, la couverture des voyelles. Quand vous baillez, vous transformez les voyelles. Si vous voulez dire un A en baillant, ça va faire O, ça va faire O plutôt que A, d'accord ? Et lui, il le fait volontairement. Ce qui crée, par exemple, dans Pour la gloire, au lieu de dire Pour la gloire, il va dire Pour la gloire. D'accord ? On l'écoute ça. Gloire, ça c'est un gloire, d'accord ? Il y a un OU qui devient un O. Au lieu de dire Pour la gloire, il va dire Pour la gloire. Mais c'est volontaire, je pense. Bien, je crois pas, non ? À Bordeaux, pour l'instant, pour, on est vraiment sur un pour la gloire. Et on a un O qui devient un en. Alors là, c'est problématique parce qu'il dit quelle force pour batailler et on entend quelle France pour batailler. Alors bon, ça devient compliqué quand on fait de la oi et surtout qu'on est plutôt redskin que de l'autre côté du miroir, vous voyez ? Alors je vous fais écouter ce passage. Hop. Là, il dit force, on entend France, France, quelque chose comme ça, d'accord ? Alors, ça, ça accentue encore ce côté brutal. Donc, une mise en scène d'une parole politique par certains choix de mixage et de l'usage du chœur et donc des niveaux sonores de la voix, mais aussi une certaine brutalité par la suraccentuation des paroles et la couverture des voyelles. Autre point, des groupes de souffle très courts. D'accord, on n'est pas comme chez Strychnine où on a des groupes de souffle longs. Ici, on est dans des formules incisives, comme chez Métal Urbain. Dans Clé de Contact, maximum 3 syllabes par groupe de souffle. Là, on est à 4,2 syllabes. D'accord, en moyenne, c'est très court. Donc, des formules voulues incisives. Et du coup, ça implique des placements des dernières syllabes de phrase qui vont être très multiples, mais aussi récurrents, systématiques. Lui, Gilbertin, utilise beaucoup le premier temps et le troisième temps. Il est donc en accord avec une prosodie plutôt traditionnelle. Mais est-ce que ce n'est pas le côté justement brut, radical, brutal ? On pose comme ça et puis on verra ensuite si ça sonne ou si ça ne sonne pas. Je pense que c'est plus dans cette optique-là. Et on le remarque d'ailleurs, il aime bien le premier et le troisième temps sur l'autre morceau dans Pour la gloire. Dernier point que je relèverai, c'est une répétition rythmique et littéraire qui va nous asséner le dernier coup de brutalité, c'est-à-dire on répète parfaitement à l'identique le premier couplet. Les refrains, c'est normal qu'on les répète, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils répètent les couplets vraiment à l'identique au niveau des voix. Je vous fais écouter donc un couplet au début du morceau, le même couplet rechanté au milieu du morceau. Et voyez la comparaison. Quelle force pour batailler, quelle force pour rassembler, quelle force pour batailler, quelle force pour rassembler. Donc là, on avait une petite nuance sur la dernière. Je sens l'odeur déjà, avec une forte accentuation. Bon, tout ça participe, selon moi, et là, on est dans le registre de l'interprétation, à créer un personnage vocal radical et brutal. Et je ne dirais pas violent, comme je l'avais dit pour Éric Desbriches chez Métal Urbain, je dirais brutal. C'est une brutalité, une radicalité politique qui correspond parfaitement à ces 80s politiques et à l'incarnation du skin oi ou du street punk oi de cette époque-là. Voilà. Alors, vu que je suis musicologue, que je suis censé l'être, je voudrais juste faire une petite parenthèse et après je finirai cette communication. J'ai remarqué sur ces deux albums que j'ai beaucoup écoutés du coup pour faire cette communication, je me demandais s'il n'y avait pas une instrumentation bordelaise ou des types bordelais, voilà, de dans ce punk que j'ai écouté chez Caméra Silence et Strychnine. Pourquoi ? Alors, au-delà des tempos, on va passer pour ça, mais on a une mise en avant partagée de la basse. On entend énormément la basse chez Caméra Silence comme chez Strychnine. C'est un point qu'on remarque, on peut l'écouter, il y a plusieurs passages que j'ai mis côte à côte. Ça, c'est le cas sur tous les morceaux que j'ai écoutés, énormément de la présence de la basse, mais aussi des passages batterie, basse-voix dépouillés, c'est-à-dire de nombreux breaks où on a la batterie et la voix et la basse, éventuellement pas de basse, juste de la batterie et de la voix. En tout cas, la voix énormément mise en avant avec la batterie. Et alors, dernier point qui m'a très agréablement surpris, parce que j'aime beaucoup ces passages-là, c'est l'usage commun de ponts instrumentaux très longs. On parle de ponts instrumentaux de 30 secondes dans deux des morceaux de Caméra Silence et de Strychnine. 30 secondes de passage instrumental dans le punk, c'est typique de Bordeaux, ça, pour moi. Enfin, de ces deux groupes, en tout cas. Écoutons ces ponts. Pour un morceau de 3 minutes, c'est efficace. Quoi. Et la voix reprend. Vous avez vu, mis comme ça, isolé, on se dit, ah oui, ça dure aussi longtemps, on avait oublié à tel point c'est efficace. Et on le voit aussi dans Caméra Silence, bien sûr. Non, c'était quand même. C'est cool. Voilà. Alors, conclusion, peut-être pour finir, puisque je pense que c'est largement l'heure. Alors, les personnages vocaux que j'ai relevés ici, je trouve qu'ils appuient et confirment les aspects corporels, vestimentaires et littéraires de ces deux groupes bordelais. Mais ils pourraient aussi totalement s'inscrire à contradiction, ce n'est pas là la question. L'idée, c'est de voir si la voix a quelque chose à dire de plus que ce que disent déjà le texte, la musique, les aspects vestimentaires, etc. C'est très intéressant, par exemple, ou ça serait très intéressant de voir un personnage vocal qui va complètement à l'opposé du style vestimentaire ou du style musical qui est joué à côté. Autre point que je voulais aborder, la dernière fois, j'avais parlé des Olivenstein, c'était il y a deux ou trois séances, bref. J'avais parlé des Olivenstein, il y avait des traits très communs avec la voix de Strychnine. Simplement, par accumulation, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Chez les Olivenstein, on entendait de l'insolence, et ici, on entend autre chose. Vous voyez ? Et pareil, chez Metal Urbain, j'avais entendu des choses avec des traits communs que je n'ai pas entendu là chez Caméra Silence. En gros, il va falloir essayer de répertorier un peu ce qui fait style à tel endroit et pas à tel autre. Voilà. Alors, du coup, la notion de personnage vocal, elle permet de mettre en lumière la diversité des catégories sociales propres au punk selon les lieux et les époques de production. Du coup, on va pouvoir historiciser et géographiciser le punk par ce biais-là. Enfin, donc, je pense que cette notion établit un pont prometteur entre l'analyse musicale, les sciences informatiques et les sciences sociales, et donc à mon avis, un très bel avenir devant elle, et je continue, moi, à œuvrer largement là-dedans, surtout dans le cadre du projet PIN. Voilà. Merci pour votre écoute.
Donc, merci pour cette présentation et merci à tous les trois d'avoir mis du son, parce que ça c'est bien quand on est journée PIN, d'avoir ces putains de morceaux qui nous arrivent. Est-ce qu'il y a une intervention, Nicolas ?
C'est juste parce que je crois qu'à un moment donné, j'ai entendu peut-être des gens réagir là, et moi, je voulais te reposer la question. Est-ce que la question de l'accent, mais que ce soit peu importe, voilà, il y a l'accent parisien, etc. Est-ce que la question de l'accent est peut-être signifiant dans la façon de prononcer les syllabes, ou est-ce que c'est quelque chose que tu mets de façon séparée? Il y a l'accent, ou en tout cas la tessiture, il y a accent, tessiture et autre chose.
Bien sûr, j'ai compris la question. En fait, voilà. Est-ce que l'accent peut jouer sur la prononciation que va avoir le chanteur? Alors, Oui, bien sûr. Je pense que l'accent qu'on a, l'accent qu'on porte, justement, moi j'ai un accent à couper au couteau, ça joue sur ma manière de chanter, d'accord ? Mais dans le chant, on peut travestir sa voix sans aucun problème. On en fait à peu près ce qu'on veut quand on a beaucoup de technique, d'accord ? Mais ça se ressent quand même. Disons que la question que je me pose, moi, c'est pas est-ce que son accent joue là-dessus, c'est donnez-moi l'œuvre, je l'étudie, et je vous dis ce que j'en entends en tant que... public et musicologue accessoirement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta réponse. On a quelque chose qui a été dit et qui est très important. Il y a un monsieur qui a enregistré Caméra Silence et qui est venu me voir immédiatement parce que c'est une information de la plus haute importance. Il va nous dire de quoi il s'agit.
En fait, tu viens de comparer trois voix parce que pour la gloire, c'est Benoît Desrio qui chante. Voilà. C'est le guitariste.
Très bien. Voilà. Donc, c'est pas Gilbertin. Les morceaux que j'ai étudiés, il y avait donc bien deux chanteurs différents. Et ça prouve donc... Bien sûr, oui, on les entend, mais là n'est pas la question. La question, c'est savoir si est-ce que la traduction sur le studio traduit la même chose en termes de personnage vocal. Oui, ils ont très bien choisi leur chanteur ensuite, en fait. Choisi, disons que c'était le guitariste, mais ils ont réussi à traduire la même émotion. Et je pense, je voulais dire aussi autre chose, que selon les morceaux d'un même artiste, on n'a pas le même personnage vocal. C'est ce qui montre la diversité, justement, de ces études. Et du coup... C'est très bien de me l'avoir dit. C'est très très bien de me l'avoir dit. Je pense que c'est très bien que tout le monde le sache, surtout.
T'as encore une question, Olivier ?
J'ai trouvé ça super, génial. Mais le choix du morceau de Strychnine, ouais. Moi, j'aurais choisi Ragnagna.
Ah, d'accord.
Parce que, de mémoire, les premières paroles, c'est « Docteur la culture s'est penché sur mon cas ce soir. Du haut des colonnes de son journal, il a exprimé son savoir. Ouais, comprends pas de quoi il parle. » Il en sait même un peu trop pour moi. Et ce qui aurait été intéressant, c'est d'expliquer le refrain. Ragnagna. Bien sûr, bien sûr.
De le faire avec beaucoup d'autodérision, ça aurait été pas mal. Ouais, tu as raison.
Et voilà, une toute dernière intervention de...
Ouais, je vais faire une déclaration publique, en fait. Une proposition et en public. Je crois que en t'écoutant et en écoutant les réponses que tu apportes et en écoutant les questions que je pose, il me semble que la prochaine, il faut qu'on la fasse ensemble.
Ça serait pas mal, ouais. Ah. Je pense aussi. Surtout musicalement, stylistiquement, ouais, et ouais. Moi, plutôt axé sur la voix. Ouais, je pense, ouais.
Voilà. Très intéressant. Donc, c'est lancé.
Très bien.
Bon, je voulais tous vous remercier pour la qualité de vos interventions.